Good Evening Business. La grande interview, Edwige Chevriot.
Il n'est pas bon que l'Allemagne s'isole, déclaration d'Emmanuel Macron lors de son arrivée à Bruxelles à l'occasion d'un sommet européen et alors qu'on apprenait l'annulation du sommet franco-allemand qui devait se tenir le 26 octobre à Fontainebleau. Il était annulé pour deux grands enjeux, notamment au désaccord sur l'énergie et puis sur la défense et sur le fameux bouclier antimissile que voudraient créer les Allemands sans les Français, sans MBDA. Éric Béranger, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de MBDA. Vous êtes le premier fabricant de missiles européens. C'est dire si j'ai beaucoup de questions à vous poser, que ça soit sur le plan géopolitique, évidemment avec la guerre en Ukraine, ce qui se passe avec les Allemands, de savoir si notre souveraineté, est-ce qu'elle est protégée ou pas? Est-ce qu'il y a encore des stocks de missiles? Vous allez tout nous raconter, j'espère du moins. Une première question, Euronaval, votre grand salon se tient actuellement au Salon du Bourget, il y a le Salon de l'Automobile, je recevais Carlos Tavares, là maintenant je vous reçois. Ça se passe bien, il y a beaucoup de monde à Euronaval, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de commandes.
Alors, il y a beaucoup de monde à Euronaval, effectivement. Aujourd'hui, Euronaval, c'est à peu près 450 exposants. C'est 140 délégations qui visitent le salon. Il faut savoir que ce salon, normalement, c'est tous les deux ans. C'est le plus grand salon au monde qui est consacré à la défense navale. La dernière fois, il n'a pas pu se tenir à cause du Covid. Donc, les gens sont d'autant plus enclins à revenir, puisque ça fait 4 ans. C'est vraiment une occasion de, à la fois, montrer les innovations que nous avons les uns et les autres et également de rencontrer beaucoup de clients en très peu de temps. Donc par exemple sur le stand de MBDA, on en est déjà à presque une centaine de délégations et de les écouter pour écouter quels sont leurs nouveaux besoins, comment évoluent leurs besoins.
Comment évoluent leurs besoins et évidemment tout ce qui se passe là, notamment avec cette guerre en Ukraine, cette guerre avec la Russie, même s'il ne faut pas employer ce mot-là, ça fait réfléchir tous les stratèges militaires, toutes les stratégies. Est-ce que vous pouvez nous dire en Ukraine, est-ce que vous avez une idée de combien de missiles au total ont été tirés?
Alors ça, c'est vraiment pas à moi qu'il faut le demander, c'est plutôt aux autorités gouvernementales qui ont des moyens de renseignement. Par contre, ce que nous voyons, nous, c'est effectivement les interrogations que les uns et les autres se posent. Et si je peux revenir peut-être un tout petit peu sur MBDA, pourquoi se tourne-t-il vers nous pour nous poser ces questions? Vous avez dit que MBDA est le premier
fabricant missilier européen, numéro 2 mondial à peu près.
Oui. En fait, MBDA, la mission de MBDA, elle est très très simple à énoncer. Notre mission, c'est de fournir à nos forces armées les capacités qui leur permettent d'obtenir la supériorité opérationnelle sur le terrain. Et donc, pour faire ça, ça veut dire que nous devons être absolument au top de la technologie sur tout un tas de domaines, puisque un missile, c'est quoi en fait? Un missile, je comparerais ça un peu à un avion de chasse que vous avez réduit, vous avez enlevé le pilote, vous l'avez réduit et vous êtes capable, pour certains d'entre eux, de le mettre dans un tube. Donc c'est vraiment un concentré de technologies absolument incroyables, sur lequel vous devez être au top en termes d'électronique particulière, en termes de cybersécurité, en termes de physique des matériaux, en termes de chimie. Sur chacune de ces composantes, nous, pour pouvoir remplir notre mission, nous sommes absolument au top niveau mondial.
Oui. Vous fabriquez combien de missiles? MBDA.
Alors, MBDA en fabrique plusieurs milliers par an et en délivre plusieurs milliers par an. Mais ce qui est plus important encore, c'est que MBDA a quelque chose d'unique. C'est que dans le monde occidental, nous sommes le seul acteur non américain qui couvre l'ensemble de la gamme, finalement, des besoins de nos forces armées. Ça va des missiles terrestres, on parle beaucoup des missiles anti-tanks sur le front ukrainien, ça va sur les missiles de combat aérien, ça va sur les missiles de combat naval, ça c'est le cœur de ce qui se passe à Euronaval. Je pense que tout le monde a en tête le mot Exocet. Exocet, c'est MBDA. Ça va sur les missiles de défense anti-aérienne. La défense anti-aérienne, c'est, vous avez tous vu, bien entendu, les images absolument terribles en Ukraine des dégâts que font ces missiles lancés par les Russes. Eh bien, MBDA fournit à nos forces armées, justement pour défendre les diverses villes françaises et autres, des moyens qui permettent de se protéger contre ces missiles.
Mais on en fournit aussi à l'Ukraine, aux Ukrainiens. Le président l'a dit.
Le président a dit qu'il fournirait certaines choses. Là, c'est vraiment à lui de
s'exprimer
sur la.
Oui, mais enfin, il s'est exprimé,
question.
Donc vous pouvez le dire.
Je peux confirmer ce que vous voyez comme moi dans la presse, oui. Mais, pour compléter.
Mais est-ce que vous en délivrez beaucoup? C'est ça qu'on a quand même envie de savoir. Est-ce que la France. Parce qu'on a reproché à la France de pas être très présent. D'être beaucoup moins présent que les Allemands, que les Américains, évidemment, que les Britanniques. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ?
Alors, là encore, la façon dont ça fonctionne, c'est que nous avons comme clients les forces armées, en fait, la DGA, les autorités françaises.
La Direction Générale de l'Armement.
La Direction Générale de l'Armement, qui nous commande effectivement un certain nombre d'équipements pour équiper les forces armées. Et ensuite, c'est vraiment une décision politique. Savoir ce qui peut être éventuellement prélevé sur les stocks des armées pour être envoyé en Ukraine. Et ça, c'est pour ça que là, c'est vraiment au président et à nos autorités politiques de s'exprimer sur le sujet.
Oui, d'accord, mais on peut quand même dire qu'il y a des missiles MBDA sur le front ukrainien.
Je crois que ça a déjà été dit.
Voilà, ça, je crois qu'on peut le dire sans problème. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la reconstitution des stocks. Parce qu'on a vu, alors après vous nous direz, on parlera en généralité, mais ça sera intéressant de voir du côté ukrainien, du côté russe, on dit qu'ils ont un peu tiré à peu près les trois quarts, voire même un peu plus, de leur stock de munitions. Et que de reconstituer leur stock, ben, ça prend plusieurs mois, voire années, non ? Ça, vous pouvez nous le confirmer ?
Alors, qu'est-ce qu'ils ont tiré exactement, là encore ? Ce sont plutôt nos autorités qui ont des moyens de renseignement et qui peuvent s'exprimer sur le sujet. Par contre, je peux effectivement vous en dire un petit peu plus sur comment on fabrique un missile et qu'est-ce que ça veut dire de fabriquer.
Et combien de temps ça prend ?
Pour certains missiles, ça peut prendre plusieurs années. Parce que, comme je vous l'ai dit, ces engins, c'est vraiment un concentré de technologie, c'est un concentré d'éléments qui peuvent prendre énormément de temps à fabriquer eux-mêmes. Par exemple, dans un missile, vous avez un cerveau, et ce cerveau lui-même peut prendre beaucoup de temps à fabriquer.
Donc, pardon, petit problème technique, rien. Oui, allez-y, je vous en prie.
Donc je disais sur la façon dont ça fonctionne, effectivement, vous avez des chaînes d'assemblage et surtout vous avez énormément de sous-traitants. Vous avez un écosystème qui est très développé. Donc par exemple pour MBDA, nous avons à peu près 1200 fournisseurs répartis sur toute la France qui nous permettent de récupérer des briques avec lesquelles nous allons fabriquer ces missiles.
Mais je sais que c'est pas ça un problème. Là, vous tournez un tout petit peu autour du pot parce que ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que si la guerre continue, on a de quoi continuer la guerre ? Et est-ce qu'on a de quoi continuer à protéger la France et les villes françaises ?
Donc là, ça fait maintenant.
Vous-même vous exprimez devant le Sénat, hein, qui a justement la commission de la défense. Ils ont posé ces questions-là.
Ils ont posé ce genre de questions, et c'est pour ça que je leur ai expliqué comment ça fonctionnait, puisque la façon, en fait, l'industrie, elle s'adapte à ce que lui demande la puissance publique. Et la façon dont ça fonctionne à ce moment-là, c'est que les militaires expriment un certain besoin, le politique décide de ce qui sera effectivement fourni, stocké, commandé. Donc ça, c'est la loi de programmation militaire qui va bientôt être révisée en 2023. Et ensuite, la commande est faite auprès des industriels. Les industriels s'adaptent à ça. Je pense que le grand changement par rapport à ce qui se passait avant le 24 février 2022, c'est que tout à coup, il y a eu une grande prise de conscience que nous avions changé de monde. On est passé d'une phase où on essayait de tirer les dividendes de la paix, c'est une expression très répandue, où tout à coup, on s'est retrouvé avec une guerre de haute intensité à la porte, aux portes de l'Europe. Et là, on a vu effectivement des États et même la Commission européenne virer en très très peu de temps. On a vu l'Allemagne, ouais, tout à coup, en un week-end, en 48 heures, décider de consacrer 100 milliards d'euros à son budget de défense. Et surtout, on a vu l'Allemagne tout à coup complètement changer d'attitude vis-à-vis de la délivrance d'armes à un pays en guerre. On a vu la Commission européenne...
Mais ça veut dire quoi pour les gens? Vous en concluez quoi, Éric Béranger? C'est que ça veut dire quoi?
J'en conclue que maintenant, il y a une prise de conscience, voilà, beaucoup plus forte sur le fait qu'une guerre de haute intensité en Europe, c'est possible. Et que donc, effectivement, il faut y être préparé. Et toutes ces choses-là se préparent. Donc la France a des moyens, et ça, ce n'est pas à moi de vous donner le détail, okay, surtout sur une chaîne grand public, puisque tout le monde peut nous écouter. Mais la France a des moyens, et par contre, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions sur la façon dont les scénarios peuvent éventuellement évoluer et sur la façon dont on doit se préparer à ces nouveaux scénarios.
Nouveau scénario. Donc, il y a un terrain de guerre, Ukraine-Russie, mais on voit bien qu'il y a une prise de conscience générale que ça peut très bien arriver sur notre propre territoire. Avant, on avait l'impression qu'on était, que c'était fini, il n'y aurait plus de guerre. Les dividendes de la paix.
Absolument.
Notamment grâce aux coupes franco-allemandes, et là, on voit qu'il éclate un peu en plein vol. Sur cette question, beaucoup, sur la question du bouclier antimissile que veut mettre au point les Allemands, avec d'autres pays, les Européens, il faut le reconnaître, mais sans vous, pourtant MBDA est en Allemagne, sans vous. Comment vous expliquez ça? Alors, sans les Français?
Je pense que les Allemands ont une logique de fonctionnement vis-à-vis des affaires de défense très différente de celle des Français.
Oui.
Et je pense que le cœur du sujet, c'est vraiment l'attitude vis-à-vis de la souveraineté. Donc si vous me permettez, je voudrais revenir un petit peu sur cette notion de souveraineté.
Mmh.
Et en particulier, enfin, la souveraineté, pour moi, c'est trois choses. C'est d'abord la liberté d'appréciation. La raison pour laquelle la France n'a pas participé au deuxième conflit en Irak, c'est parce que la France disposait de satellites d'observation en propre qui lui permettaient d'avoir sa propre appréciation de la situation sur le terrain et donc de prendre une décision en connaissance de cause. Donc liberté d'appréciation.
Est-ce qu'on l'a aujourd'hui ou pas?
Bien sûr qu'on l'a.
D'accord, ok, non, mais.
La deuxième.
Bien sûr pour vous, mais pour nous,
aujourd'hui,
vous avez.
Voilà. Aujourd'hui, il y a des satellites d'observation, okay, très précis, que possède la France et qu'elle exploite.
Deuxième condition de la souveraineté. Oui.
Deuxième élément de la souveraineté, c'est la liberté de décision. Ne pas être contraint dans la décision que nous voulons prendre, quelle qu'elle soit, suite à l'appréciation de la situation. Et là, le troisième élément de souveraineté, c'est la liberté d'action.
Mmh.
Je vous donne un exemple tout bête. En 2013, la France a décidé en 48 heures de déplacer des moyens d'Afghanistan vers le Mali pour l'opération Serval. Pour faire ça, la France avait besoin à l'époque, elle avait encore des missiles américains dans ses dotations, elle avait besoin de transférer ces missiles américains de l'Afghanistan vers le Mali.
Oui.
Il a fallu qu'elle demande l'autorisation aux Américains. Donc, pas de liberté d'action.
Ouais.
Et cette autorisation a mis du temps à arriver.
Ouais.
Donc, cette liberté d'action est importante.
Ok, mais pardon, vous ne répondez pas vraiment à la question, c'est pourquoi les Allemands ont exclu les Français?
Et bien parce que les Allemands...
Et qui ont choisi une technologie qui peut être israélienne, américaine...
Justement, parce que dans cette liberté d'action, il est important de disposer de moyens dont vous serez sûr que vous pourrez les utiliser de toute façon. La France attache énormément d'importance à ça. La France souhaite être souveraine.
Mais les Allemands aussi, non?
Non, les Allemands, justement, comme vous le dites, achètent des équipements, voire même des F-35, des équipements, des armements américains ou israéliens. Et donc, ils se mettent dans une situation où, quand ils voudront les utiliser, ils devront demander l'autorisation.
Oui, mais pourquoi ils font ça ?
Parce qu'ils considèrent que, quoi qu'ils fassent, ils seront toujours avec les Américains, qu'à chaque fois, ça ne leur posera pas de problème. Je pense que c'est ça leur approche. D'accord. Donc, c'est une approche très différente de la France. La France a toujours mis un point d'honneur à être souveraine dans ses décisions et ses actions.
On voit bien, vous l'avez dit, Éric Béranger, je rappelle, vous êtes président de MBDA, il y a une prise de conscience très forte des différents États que ça peut arriver, ça peut revenir. Est-ce que dans ce cadre de cette économie de guerre, pour reprendre l'expression du président de la République, est-ce que l'industrie, notamment l'industrie française, peut suivre ?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'industrie française, elle s'adapte, elle peut s'adapter.
Parce qu'on est quoi ? On est le troisième, quatrième vendeur d'armes ?
Ça dépend des années, mais l'industrie française, ce qu'on appelle la base industrielle et technologique.
Voilà, compétence et la base.
Elle a une particularité, cette industrie française de défense, c'est qu'elle couvre là aussi l'ensemble des domaines. Donc cette souveraineté dont je parlais tout à l'heure, la base industrielle de défense en est un élément clé, parce que si vous n'êtes pas capable de produire des choses chez vous, il y a un moment où vous serez obligé d'aller les acheter ailleurs. Et donc, la particularité de cette industrie française, c'est qu'elle couvre l'ensemble de la gamme. Et oui, elle peut s'adapter, il faut simplement être très très clair sur le besoin qu'on lui exprime. Et on revient à ce que je vous disais tout à l'heure.
Alors, là, il y a encore beaucoup de questions, donc si vous pouvez faire des réponses un tout petit peu plus courtes, Éric Béranger, c'est juste parce que là, donc les besoins militaires, on les a, on peut les voir, on vous les commande. Vous avez un portefeuille de combien ?
Un portefeuille
de commandes.
De commandes, aujourd'hui, on a un portefeuille d'à peu près 20 milliards d'euros.
20 milliards d'euros, d'accord. Et là, Euronaval, vous en avez engrangé combien ?
Oh, c'est pas dans des salons comme ça que nous engrangeons particulièrement, c'est tout au long de l'année.
20 milliards d'euros, donc ça va, vous avez une belle perspective devant vous. Reste à savoir si vous allez pouvoir fabriquer, parce qu'il y a un problème de pénurie de composants.
Alors ça, c'est justement, là pour le coup, on est vraiment dans le métier des industriels. Oui. Le métier d'un industriel comme MBDA, c'est d'anticiper.
Oui.
C'est d'anticiper. Et donc, le sujet n'est pas nouveau d'ailleurs, parce que la période Covid a également créé beaucoup de pénuries. On voit certains composants pour lesquels les prix ont été multipliés par 20, sur lesquels le temps d'approvisionnement a été multiplié par 3 et parfois même les fournisseurs ne veulent même plus s'engager. Et donc là, vous imaginez bien que c'est quelque chose que nous suivons de très près et pour lesquels nous prenons nos dispositions, nous faisons des stocks en avance de phase.
Vous avez un stock qui peut tenir vos... Une fabrication de vos missiles pendant quoi, un an, deux ans, trois ans ?
C'est pas comme ça que ça marche. C'est on a un carnet de commandes, comme vous dites. On a des engagements que nous avons pris et que nous voulons tenir. Et en fonction de ces engagements, nous anticipons ce que nous devons approvisionner en avance de phase.
Sur les 20 milliards de carnet de commandes, votre chiffre d'affaires, il est de 4 milliards, mais ce qu'il faut regarder, évidemment, c'est votre portefeuille. Il y en a combien qui sont commandés par les Français et les autres ? Parce que vous êtes un groupe, en fait, qui est à 37%. Vous êtes filiale d'Airbus, 37,5%. Filiale de BAE Systèmes, britannique, on va parler de la Grande-Bretagne qui traverse elle aussi une période difficile, et puis des Italiens. Ça se répartit comment ? Vous avez des commandes étrangères ? Comment ?
Oui, alors, et c'est d'ailleurs très très important, et c'est très important pour notre souveraineté également. À peu près 50% du chiffre d'affaires de MBDA est fait à l'export. Qu'est-ce qu'on appelle l'export sur MBDA ? C'est tout ce qui est en dehors de nos pays d'origine. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que nos pays d'origine ? Là, on touche en fait quelque chose qui est absolument unique sur MBDA. Mmh. Je ne connais pas d'autres entreprises au monde qui soient à la fois au cœur de la souveraineté, mais en même temps une entreprise intégrée entre plusieurs nationalités.
Non, d'accord, ok, mais vous répondez. Donc il y en a combien ? 50% de vendus ?
50%.
À l'international. Bon, par exemple, là, il n'y a plus de composants. Vous favorisez les commandes françaises, les commandes britanniques, les commandes italiennes ?
Non, on n'a pas besoin de faire ça parce que justement, nous prenons nos dispositions. Notre rôle à nous, c'est de servir nos clients.
Alors, on a vu, vous parler des images en Ukraine, on va évidemment les missiles, comment les arrêter. Mais là, on a vu aussi des images dramatiques avec des drones iraniens qui bombardent, enfin du moins qui font exploser des cibles, dans, notamment à Kiev. Vous venez de mettre la main avec Safran sur Silas. Alors Silas, on est dans les drones, c'est pas complètement ces drones-là évidemment, mais c'est un groupe, c'est très important, ça veut dire que c'est le prochain grand développement pour MBDA ?
C'est un développement très important, oui. En fait, le métier d'MBDA, c'est finalement de délivrer des effets, donc d'être capable de détruire certaines cibles, d'apporter des effets aux militaires.
Et Silas vous apporte quoi ?
Eh bien, justement, du laser. C'est-à-dire que vous avez plusieurs façons de traiter des cibles qui vous attaquent. Vous pouvez les détruire avec des missiles, vous pouvez les détruire avec des drones même qui vont aller les détruire, et vous pouvez également, par exemple, vous pouvez également les brouiller. Dans certains cas, ça marche, ça suffit. Et le laser, de plus en plus, va être l'une des solutions de cette panoplie.
Ouais. Ouais, donc ça, et ça, ça va. Vous allez développer ça à grande échelle à partir de quand ?
Bah, écoutez, laissez-nous déjà rentrer dans Silas. Ça fait maintenant des mois, voire même plus d'une année, et même encore un petit peu plus,
que nous
attendons que les procédures administratives se concluent. Maintenant, cette autorisation est là. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un closing, donc une signature de notre entrée dans Silas le 2 novembre. Et à partir de là, on va enfin pouvoir travailler.
Pourquoi, je crois que vous avez déposé un recours, vous pouvez nous le confirmer, un recours contre la Commission européenne dans le cadre du développement d'un missile européen hypersonique. Là encore, pourquoi MBDA n'est pas dedans ?
Ah ben ça, il faut poser la question à la Commission européenne. Mais
donc le recours, vous l'avez...
On a déposé un recours parce qu'effectivement, nous ne comprenons pas cette décision. Nous considérons qu'elle est contestable. Pourquoi ? J'ai des enfants. Je pense que la plupart de vos auditeurs ont des enfants. Et quand on voit ce qui se passe en Ukraine, je pense qu'on a tous envie d'être protégés contre ces missiles dits hyper-vélos, c'est-à-dire qui volent à plus de Mach 5, qui sont arrivés sur ces villes. Il se trouve que pour définir et préparer une défense contre ça, en général, ça aide de comprendre comment cette menace fonctionne.
Et donc, on a 30 secondes, oui. Là, vous voyez, c'est le temps de lancer un missile.
Eh bien, MBDA est le seul, et la France est le seul pays au sein de la communauté européenne qui comprend cette menace.
Oui, mais nous, donc, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce qui s'est passé, ça, il faut leur demander, mais en tout cas,
nous contestons. Vous avez bien une idée ?
Non, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas.
Bon, à suivre.
D'où le recours.
D'où le recours, et la réponse est quand ?
Alors là, je n'en sais rien non plus. Mais en tout cas, nous, on va se battre pour continuer.
Difficile la défense au niveau européen, hein, en tous les cas, on s'en rend compte. Merci beaucoup Éric Béranger d'être venu ici, d'avoir pris le temps de faire un détour par les studios de BFM Business. Vous pouvez évidemment retrouver cette interview sur le podcast, sur le site de BFM Business. Il y avait un QR code même qui s'affiche pour ceux qui nous regardent à la télévision. Et tout de suite, Tech & Co avec François Sorel. Bonne soirée.
Good evening business. La grande interview.